Prenez place, merci pour votre ponctualité. Vous êtes à International, TV5 Monde, RFI, émission réalisée comme chaque semaine en collaboration avec nos confrères du Monde. L'Assemblée générale de l'ONU vient de s'achever à New York. Il y a bien sûr les points chauds que vous entendez dans l'actualité jour après jour. Il y a la Syrie, la question des réfugiés, des élections contestées en Afrique ou encore l'Afghanistan. Et puis un autre dossier dont on ne sait même plus s'il est réellement d'actualité. Nous voulons parler du Proche-Orient. Comme chaque année, le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne ont fait un échange, des discours assez convenus, où ils se rejettent réciproquement la responsabilité. Notre invitée aujourd'hui, Aliza Bin Noun, merci madame d'être avec nous. Vous êtes ambassadrice d'Israël en France. Je rappelle et je précise que nous avions reçu la déléguée générale de Palestine voici quelques temps. Nous avons beaucoup de questions à vous poser sur ce qui se passe actuellement dans la coulisse. Est-ce que l'on négocie? Nous vous interrogerons également sur les relations entre les États-Unis, Israël, les relations avec la France, avec l'Afrique, etc. Avec mes confrères et consœurs, tout d'abord Sophie Malibaud de RFI et Philippe Ricard du quotidien Le Monde. Nous allons tout d'abord, si vous voulez bien, écouter deux extraits des discours de cette Assemblée générale de l'ONU. Tout d'abord, Mahmoud Abbas qui revient sur la situation qui est faite aux Palestiniens et qui demande cette année encore la création, la reconnaissance d'un État palestinien.
Oui, presque un siècle s'est écoulé depuis la célèbre déclaration Balfour de 1917. Cette déclaration maudite par laquelle la Grande-Bretagne a donné, sans aucun droit ou consentement de qui que ce soit, la terre de Palestine à d'autres. Nous reconnaissons et nous continuerons de reconnaître l'État d'Israël. Toutefois, Israël doit reconnaître l'État palestinien et mettre un terme à l'occupation de nos terres afin que nous puissions exister côte à côte en paix et en toute sécurité, en bon voisin.
Voilà pour cette déclaration donc de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Écoutons la réponse du Premier ministre israélien, M. Netanyahou.
We will not accept any attempt by the UN. Nous n'accepterons aucune tentative des Nations Unies de nous dicter quoi que ce soit. La route vers la paix passe par Jérusalem et Ramallah, pas par New York. J'en appelle au président Abbas. Vous pouvez faire un choix. Vous pouvez continuer d'alimenter la haine comme vous avez fait aujourd'hui. Ou vous pouvez enfin faire face à la haine et travailler à mon côté pour établir la paix. Président Abbas, au lieu de parler contre Israël ici aux Nations Unies à New York, je vous invite à parler au peuple israélien, la Knesset à Jérusalem. Et je viendrai avec plaisir parler au Parlement palestinien à Ramallah.
Aliza Bin Noun, nous allons parler, je le disais il y a un instant, des relations avec les États-Unis, avec la France, avec, disons, toutes les grandes diplomaties. Ce dossier de la paix au Proche-Orient est ce qu'on appelle, dans le jargon diplomatique ou journalistique, un dossier à bas bruit. En d'autres termes, il ne se passe rien. Est-ce que ça n'arrange pas d'une certaine façon Israël, qui ait autant de bruit à ses portes pendant ce temps-là, on regarde ailleurs?
D'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici, d'avoir l'occasion de parler de la situation dans la région. Et ce n'est pas que rien ne se passe dans la région, parce que les derniers jours, il y avait quelques attentats terroristes que nous avons pensé qui se sont arrêtés les semaines dernières. Alors, les choses se passent au Moyen-Orient. Il y a des attentats qui arrivent et à Jérusalem et ailleurs en Israël. Et c'est vrai que ce n'est pas l'enjeu numéro un sur l'agenda international à cause des développements au Moyen-Orient. Mais nous avons entendu ici les deux discours. Nous avons entendu ici le Premier ministre Netanyahou qui a appelé encore une fois Mahmoud Abbas de venir et commencer un dialogue direct
à la Parlement,
à la Knesset ou à Ramallah ou à Paris. Il s'est exprimé de cette manière les derniers 3 ans, je pense. Et aujourd'hui, le matin, j'ai entendu dans les nouvelles en Israël que Mahmoud Abbas a rejeté cet appel.
Madame l'ambassadeur Ali Abinoun, Benjamin Netanyahou a parlé à la tribune des Nations Unies de ce qui alimente la haine. Est-ce que la poursuite de la colonisation n'est pas un facteur qu'il faudrait reconnaître, un facteur de tension, de ce qui alimente la haine justement?
Et Benjamin Netanyahou a dit très clairement dans ce discours que le problème ou le conflit entre Israël et les Palestiniens existait bien avant 1967, après la guerre de six jours, quand tous les enjeux des implantations s'est soulevé. Et ce conflit, il s'agit d'un conflit de plus que 100 ans. Et ce qui est très intéressant ici d'accentuer est que quand il y a un conflit, quand il y a un malentendu, il faut s'asseoir autour de la table de négociation et il faut commencer un dialogue. Ce qu'Israël a fait exactement avec l'Égypte il y a 40 ans et ce qu'Israël a fait avec la Jordanie.
Mais la colonisation aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de la stopper? Même si, comme vous l'expliquez dans l'histoire, les actions violentes remontent plus haut. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas temps de stopper la colonisation?
Il y a...
qui est condamnée par la communauté internationale.
On voit l'évolution de la carte et de la place laissée aux Palestiniens qui se réduit comme peau de chagrin.
Il y a 400 000 Israéliens qui habitent en Cisjordanie, en Yehuda et Shomron. Et cette population a ses besoins. Il y a des gens et il y a des enfants. On doit construire des bâtiments, on doit construire des maisons. C'est beaucoup de gens et de quels il s'agit. Il y a ce conflit, il y a cet enjeu, mais on doit, bien sûr qu'on doit essayer de résoudre ce conflit où on doit adresser, comme on a essayé de le faire pendant le processus d'Oslo. Mais pour résoudre ce problème, il faut, encore une fois, il faut parler directement. Il ne faut pas passer à travers de la communauté internationale, ce qui fait Mahmoud Abbas depuis déjà des années. Il faut venir s'asseoir et commencer un dialogue. De l'autre côté, et ça a été aussi mentionné pendant le discours de Netanyahou, c'est que l'autorité palestinienne est très, très engagée par l'incitation à la haine dans les réseaux sociaux. Et Mahmoud Abbas lui-même, il soutient financièrement les familles des chahides, des terroristes qui commettent des attentats terroristes. Il n'a de rue après leur nom. Alors ici, il y a une atmosphère, une ambiance très, très problématique lorsqu'il s'agit de la paix.
Pourquoi on a encore entendu le Premier ministre Netanyahou insister sur le fait qu'il ne voulait pas passer par l'ONU, en fait, et qu'il proposait effectivement une invitation bilatérale? Pourquoi tant d'insistance, en fait, sur ces tractations bilatérales, sachant qu'on voit bien que ce sont des invitations qui sont vaines? Ça fait plusieurs années que c'est le cas, plusieurs années que Abbas rejette, effectivement. Pourquoi insistez-vous autant sur le bilatéral? C'est parce qu'Israël est en position de force dans ce rapport-là ou pas?
Israël insiste la réponse est très simple. Dans les organisations internationales, Israël est toujours en minorité. Si les Arabes vont décider un jour de passer une révolution selon laquelle la terre est plate, on peut le faire. Et ça s'est montré très très clairement au Conseil des droits des hommes à Genève, qui s'occupe la plupart de son temps et par la critique et la condamnation d'Israël. C'est exactement ce qui arrive à l'ONU. Alors, les organisations internationales ont montré au cours des années que Israël est vraiment mise sous pression et les Arabes peuvent, avec leurs alliés, peuvent passer ce qu'ils veulent. Alors, pour nous, les Israéliens, on ne peut pas accepter un dictat international. On peut, essayer de résoudre tous les problèmes, mais on doit parler. Lorsque nous avons des problèmes avec les voisins, ou même dans la famille, en général, nous devons discuter et nous devons essayer de résoudre les problèmes directement.
Madame, pour faciliter éventuellement ce dialogue, Sophie Malibeau vous a posé la question, nous n'allons pas la répéter 20 fois jusqu'à la fin de l'émission. Est-ce que l'arrêt de la colonisation ne serait pas un signe de bonne volonté qui permettrait justement de créer un nouveau climat, un nouveau dialogue?
Peut-être, mais vous vous souvenez, il y a 6 ans, c'était le même Benjamin Netanyahou qui a gelé la construction en Cisjordanie pendant 10 mois. Il n'y avait aucune construction. Et il appelait, au cours de ces 10 mois, Mahmoud Abbas de venir, et comme il le fait maintenant exactement, de venir et
donc
commencer un dialogue.
Donc l'histoire piétine se répète.
Il se répète, mais le problème est qu'un côté invite et l'autre côté rejette. Alors ici, il faut voir pourquoi les Palestiniens rejettent cet appel. Alors nous étions là-bas, et ici, c'est très important pour moi d'accentuer un autre enjeu, parce que vous voyez, la situation au Moyen-Orient d'aujourd'hui n'est pas la même situation d'il y a 6 ans. Il y avait une certaine détérioration dans le Moyen-Orient et en ce qui concerne la sécurité, le terrorisme. Vous connaissez toute cette situation. Alors, on ne peut pas attendre Israël de répéter ses gestes. Et de l'autre côté, les interlocuteurs, notamment les Palestiniens, qui ont aussi un rôle à jouer, ils ignorent leurs responsabilités.
Aliza Bin Noun, et pourquoi le rejet de l'initiative française, puisqu'on a vu que votre principal allié, l'allié américain, était présent en juin dernier à Paris quand les différents acteurs de cette initiative se sont réunis à l'instigation de la France. Ce n'est pas l'ONU, c'est une autre initiative. Pourquoi rejeter cette initiative ?
C'est une autre initiative, mais aussi c'est une autre initiative internationale où, encore une fois, il n'y a aucun discours... conversation, aucun dialogue entre les éléments concernés.
Ça aurait été dans un deuxième temps. Si
ça veut dire les Israéliens et les Palestiniens.
Ça serait venu dans un deuxième temps, notamment si les parties concernées se seraient senties vraiment concernées par l'initiative.
Non, mais d'abord, Netanyahou il a rejeté cette initiative en disant que oui, il est prêt de venir même ici à Paris pour rencontrer Mahmoud Abbas. Et les Français étaient aussi engagés l'année dernière en essayant de persuader Mahmoud Abbas de venir ici, ce qui a échoué. Maintenant, chaque initiative internationale ou chaque conférence internationale où la plupart des pays qui participent sont vraiment contre la politique du gouvernement israélien, ça cause un problème pour les Israéliens parce que nous avons montré auparavant que nous sommes prêts de faire des concessions territoriales. Et nous les avons fait à l'Égypte, à la Jordanie, mais l'autre côté doit avoir une bonne volonté. Et lorsque l'autre côté, en ce cas les Palestiniens, ils sont engagés par rapport à l'incitation à la haine contre les Israéliens, ça cause un problème.
On entend parler également d'une initiative russe pour faire se rencontrer les deux leaders, Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou, à Moscou. Ça aurait du sens ?
Ça aurait du sens de se rencontrer partout. Ce n'est pas l'endroit qui importe. Ce qui importe est d'avoir un rendez-vous ou un dialogue direct. Ça peut être à Moscou, ça peut être à Paris, ça peut être à Ramallah et ça peut être à Jérusalem. Mais ce qui a rejeté, encore une fois, l'appel et l'initiative étaient les Palestiniens, parce que ce qui dit Mahmoud Abbas, que pour commencer un dialogue direct avec Netanyahou, il faut maintenant accepter deux conditions préalables. Le premier est libérer des terroristes qui sont emprisonnés en Israël à cause de tuer plusieurs des Israéliens. Et l'autre condition préalable, c'est exactement geler la construction et la construction en Cisjordanie. La société israélienne d'aujourd'hui, pour le gouvernement israélien qui était élu d'une manière démocratique, nous sommes le seul pays démocratique au Moyen-Orient, ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, ce n'est pas faisable même.
Est-ce que pour négocier, vous n'avez pas besoin d'un véritable interlocuteur qui puisse ensuite imposer les conditions à son propre peuple ? Est-ce qu'en ayant Marwan Barghouti en prison depuis tant d'années, vous ne vous privez pas d'un interlocuteur valable avec lequel vous pourriez avoir des discussions réelles ?
D'abord, l'autorité palestinienne a un interlocuteur officiel. Il s'appelle Mahmoud Abbas. C'est lui qui a été nommé et c'est lui qui doit, avec lequel Israël doit avoir des négociations.
Vous lui faites confiance ? On peut négocier avec Mahmoud Abbas ?
Netanyahu l'appelait plusieurs fois. Alors, au moins, il essaye.
Bon, et sur Barghouti ?
Sur Barghouti, pour nous, Barghouti, la question est très claire. Barghouti est un terroriste qui était engagé par les assassinats de plusieurs des Israéliens. Il est emprisonné pour je ne sais pas combien de centaines d'années. Et Barghouti, pour Israël, est une personne comme pour vous, et les terroristes qui sont emprisonnés, qui ont commis les attentats et le mois de novembre et après. Alors Barghouti, pour Israël, est un terroriste.
Ne sera jamais un interlocuteur ?
Barghouti est emprisonné et un terroriste. Maintenant, il faut se focusser sur la réalité telle qu'elle est. Ça veut dire Mahmoud Abbas, lui, il est le président élu de l'autorité palestinienne.
Alors, on parlait de la colonisation, on va rester sur le dossier proche-oriental. Pensez-vous encore réaliste la création d'un État palestinien ? C'est-à-dire une solution à deux États, sachant qu'en Cisjordanie, par exemple, la colonisation en peau de léopard rend assez illusoire la constitution d'un État réel.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est réel. Et je pense qu'Israël a montré, encore une fois, et au cours des années, que nous sommes prêts de faire des concessions territoriales. Israël s'est retiré de Sinaï, Israël s'est retiré du sud du Liban. Il y a 11 ans, Israël s'est retiré de la bande de Gaza. Israël a enrouté toutes les implantations qui existaient dans la bande de Gaza. Il s'agit de 10 000 personnes qui vivaient là-bas.
Mais la bande de Gaza est toujours sous blocus. Les constructions de logements dans Jérusalem-Est se poursuivent, de même que les implantations dans les colonies en Cisjordanie. Ce ne sont pas des concessions territoriales.
Et le résultat, à la suite de cette action, ce qu'Israël a obtenu au lieu de la paix et la sécurité, c'était des milliers de missiles qui sont tombés sur le sud d'Israël. Et la dernière fois, pendant Bordure protectrice, et les missiles ont arrivé même au nord d'Israël. Maintenant, ce qui arrive dans la bande de Gaza, d'abord, Israël est très engagé. Israël est vraiment engagé et est engagé pour l'amélioration des conditions économiques dans la bande de Gaza. Et à l'ONU, à propos, il y a une semaine, il y avait aussi le rendez-vous des pays donateurs qui s'occupent de la bande de Gaza. Et là-bas, je suggère de lire le discours qu'a donné le ministre israélien par rapport aux relations avec la bande de Gaza. Israël est vraiment très intéressé de voir que la situation s'améliore dans la bande de Gaza du point de vue économique. Il y a chaque jour 8 camions qui entrent dans la bande de Gaza avec des nourritures, avec des médecines. Il y a quelques jours un accord qui a été signé entre le ministre de la Finance israélien et son homologue palestinien par rapport aux fournisseurs d'électricité.
Mais le blocus continue d'asphyxier la bande et sa population.
D'abord, il y a un problème ici parce que ce qui maintenant roule dans la bande de Gaza, c'est le Hamas, qui est connu comme une organisation terroriste, pas que par Israël, mais aussi par l'Union européenne, les États-Unis, le Japon et des autres pays. Et c'est une entité avec laquelle on ne peut pas discuter. Il ne reconnaît pas Israël. Il ne veut pas renoncer à la violence contre Israël. Alors Israël, le gouvernement israélien, a la responsabilité de la sécurité du peuple israélien. Alors blocus, je ne sais pas si c'est blocus, parce qu'il y a encore une fois, il y a 8 camions qui passent. Il y a aujourd'hui des associations, des organisations qui soutiennent et la population de la bande de Gaza. Israël, nous-mêmes, nous avons l'intérêt que la situation s'améliore dans la bande de Gaza parce qu'ils sont nos voisins. Mais encore une fois, les menaces terroristes, les menaces du point de vue de la sécurité encore existent.
Dans quelques jours, j'allais dire quelques semaines, Barack Obama, le président américain, quittera ses fonctions. Lorsqu'il les avait prises, lorsqu'il avait été élu, il avait fait de ce dossier proche-oriental son objectif. Il a même reçu, de façon anticipée, pourrait-on dire, le prix Nobel de la paix. Il a échoué où Israël ne voulait pas d'un accord de paix.
Encore une fois.
Non, mais Israël, que pensez-vous du bilan de Barack Obama?
Israël veut parvenir à la paix.
Pourquoi ça ne s'est pas fait?
Je vais insister, parce que c'est encore une fois, c'est le premier ministre israélien qui appelle son homologue de venir et commencer un dialogue.
Mais est-ce qu'Obama a échoué, madame, à convaincre peut-être Mahmoud Abbas?
Et Mahmoud Abbas n'a pas l'intérêt de parvenir à la paix. Il est plus engagé par l'incitation à la haine. Ça, c'est le problème. Maintenant, avec les États-Unis, les États-Unis sont l'allié numéro un de l'État d'Israël. Il y avait un accord dans le domaine de la sécurité qui était signé il y a quelques semaines, selon lequel le soutien dans le domaine de la sécurité américaine est augmenté jusqu'à 38 milliards de dollars pour les 10 ans qui arrivent. Alors, les relations entre Israël et les États-Unis sont des relations stratégiques, sont des relations très importantes.
Elles étaient tendues entre Obama et Netanyahou, ce n'était pas le grand amour.
Il y avait des malentendus, comme il y a entre les pays amis. Et avec la France, qui est un pays ami, nous avons aussi des malentendus. Mais in fine, il ne faut pas oublier que ce sont des pays démocratiques qui partagent les mêmes valeurs.
Pour l'avenir, vous préférez Mme Clinton ou M. Trump comme interlocuteur?
Alors, vous savez, pour nous, les États-Unis sont les États-Unis. C'est l'allié numéro un. Nous ne pouvons pas maintenant soutenir ni l'un ni l'autre. Et Benjamin Netanyahu, je pense, demain, il va se rencontrer avec les deux.
Parfait. Nous vous retrouvons dans quelques minutes. D'ici là, sur RFI et sur TV5 Monde, le point de l'actualité.
RFI, 12h et bientôt 30 minutes à Paris, 2 heures de moins en temps universel.
Edmond Sadaka.
Comme il s'y était engagé pendant sa campagne présidentielle en 2012, François Hollande a reconnu ce dimanche les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des...
Retour international, nous recevons aujourd'hui Aliza Bin Noun. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes ambassadrice d'Israël en France. On vient de voir dans les points d'actualité, le monde entier, pourrait-on dire, s'inquiète ou devrait s'inquiéter de ce qui se passe à Alep, en Syrie, pays frontalier d'Israël. Comment réagissez-vous à ce désordre, à ces centaines de milliers de morts? Quelles peuvent être les réponses, les commentaires ou les actions d'Israël?
D'abord, c'est très triste ce qui s'est passé en Syrie les dernières années. Chaque enfant, chaque femme, chaque homme qui sont tués est une âme entière. Pour Israël, la position par rapport à la Syrie est très très claire. D'abord, nous ne voulons pas nous trouver au sein du conflit et en Syrie. Et il y a trois lignes rouges qui sont très importantes pour Israël et que Israël ne va pas permettre qu'ils soient passés. Le premier est la livraison des armes de l'Iran à Hezbollah qui passe à travers le territoire de la Syrie. Là, Israël garde la droit de réagir. Deuxièmement, c'est des échanges de tirs entre et les armées ou quoi que ce soit de l'autre côté et qui tombent sur des territoires israéliens. Il y a quelques jours, il y avait des échanges et de telle manière. Et le troisième point, c'est qu'Israël ne peut pas accepter que les organisations islamistes extrêmes se renforcent sur les frontières du nord d'Israël. Parce que ça, vraiment, ça pose une menace très, très et significative par rapport à Israël.
Mais, Madame l'ambassadeur, l'ennemi numéro un d'Israël dans ce conflit, c'est Daesh ou c'est le Hezbollah?
Et Hezbollah est une organisation qui menace plus forcément et concrètement, et avec lequel Israël avait déjà des combats ou des guerres et les dernières années. Et le Hamas et le Hezbollah, ils possèdent 100 000 missiles et dont le cible est Israël. Les déclarations qui sont faites par Nasrallah, presque, je ne sais pas, chaque deuxième jour, sont contre Israël. Alors pour nous, le Hezbollah est au Liban, est vraiment une menace très, très inquiétante. Et bien sûr, parce qu'ils sont soutenus par l'Iran. Maintenant, par rapport à Daesh, pour Daesh, Israël est ennemi, ça c'est clair. Mais Daesh, pour le moment, ils sont très occupés en Syrie, en Irak, peut-être au Sinaï, où ils aussi sont actifs à travers de leur proxy, et Beit el-Maqdas, c'est une organisation qui se trouve au Sinaï. Et là, Israël et l'Égypte ont une très bonne coopération et pour lutter contre cette menace.
Il y a une vraie menace, effectivement, de l'État islamique contre Israël aussi, où on a le sentiment que relativement à d'autres pays, notamment européens, l'État islamique s'intéresse assez peu, finalement, à Israël. Comment vous expliquez ça, fait qu'ils soient occupés ailleurs?
Parce que je pense que c'est ça, ce n'est pas leur idéologie. Leur idéologie est aussi hostile contre Israël comme les autres. Mmh. Et le point ici est qu'ils sont maintenant en train de se renforcer. Et comme je viens de dire, ils essayent de se renforcer en Irak et en Syrie, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Mmh. Mais ils sont plus occupés en ce pays que d'Israël. Mais ils se sont déjà exprimés contre Israël, ils se sont déjà font des déclarations contre Israël. Ça, il n'y a pas là aucune illusion.
Uniquement des discours à ce stade, non?
Oui, à ce stade, c'est des discours. Et aussi au Sinaï, ce n'est pas que des discours, parce que l'organisation qui est liée à l'État islamique ont déjà été aussi active par rapport et contre Israël.
Sophie Malibon.
Comment est-ce que vous vous situez par rapport aux Russes? Comment est-ce que vous évaluez la diplomatie russe dans ce jeu syrien très compliqué, sachant que les Russes appuient le régime de Bachar el-Assad, qui lui-même combat avec les forces du Hezbollah libanais et les Iraniens?
Avec la Russie, nous avons des relations d'abord des relations diplomatiques. Il y a plus qu'un million émigrés en Israël qui sont venus de la Russie. Et avec la Russie, nous avons eu la dernière année quelques dialogues pour exactement discuter la situation sur Terre, parce que l'armée russe et la force aérienne russe est engagée en Syrie. On ne veut pas d'avoir une confrontation avec Israël. Alors pour ça, on doit discuter. Et encore une chose qui est toujours soulevée et avec la Russie, c'est l'enjeu de livraison des armes et des missiles et à l'Iran.
Comment percevez-vous justement le fait que les Russes maintenant soient, à cause du conflit en Syrie, soient devenus très incontournables dans la région
et proches des Iraniens,
comparativement aussi au retrait relatif des États-Unis? Comment vous expliquez ça? À terme, ça sera une bonne chose pour Israël ou pas?
Nous regardons nos intérêts et nos intérêts suggèrent la sécurité d'Israël. Alors en ce qui concerne la Syrie, comme je viens de dire, nous ne et réagissons et pas par rapport à ce qui se passe en Syrie. Mais lorsqu'il y a une présence militaire russe en Syrie et lorsque nous suivons de proche ce qui se passe en Syrie, il y a un intérêt très clair d'avoir cette conversation, c'est d'avoir un dialogue pour éviter une escalation avec la Russie. Et aussi en ce qui se passe par rapport à la livraison des armes et au Moyen-Orient, notamment et en Iran. Et alors ça, ce sont des sujets, des enjeux qui sont soulevés et quand les Israéliens, notamment le Premier ministre, ils rencontrent le président russe.
Mais vous ne regrettez pas que les États-Unis soient finalement pas plus présents dans ce conflit?
Mais encore une fois, c'est une décision américaine. Et il s'agit de politique américaine, de leur politique et de quelles mesures ils veulent être impliqués au Moyen-Orient. Pour nous, nous voyons la situation et à travers du prisme qui est très pertinent pour Israël.
Est-ce que vous craignez justement pour le statu quo sur le Golan? Est-ce que vous craignez de ce qui pourrait advenir si le régime syrien basculait du côté de Bachar et donc des forces qui l'ont aidé, Hezbollah et...
Tout à fait, nous sommes très concernés. C'est exactement la troisième ligne rouge que je viens de mentionner. Parce que pour nous, ce qui arrive dans le Golan est très très important. Ici, il y a une présence très forte iranienne. Ça cause un enjeu, un dégât, ou pas dégât, mais un concern lorsqu'il s'agit d'Israël. Et oui, parce que l'Iran est une menace, est une ennemie très très pertinente quand il s'agit de...
Alors madame, justement, on a entendu le Premier ministre Netanyahou à la tribune de l'ONU dire que la menace iranienne était devant nous et derrière nous. Or, on a assisté à une sorte de retour de l'Iran dans la communauté internationale par les États-Unis, par l'Europe. Il n'y a plus de sanctions. Vous êtes Israël et le seul pays aujourd'hui encore à contester une légitimité de l'Iran?
Oui, parce qu'Israël est le seul pays que l'Iran menace d'une manière très explicite.
Encore maintenant.
Il y avait une défilé il y a quelques jours de l'armée iranienne et sur quelques de leurs missiles balistiques, il y avait des écritures qui ont appelé à la destruction d'Israël.
Il n'y a pas eu de changement, vous diriez, dans la politique iranienne ces dernières années?
C'est toujours la même menace? En ce qui concerne Israël, pas du tout. C'est la même menace, le soutien des organisations terroristes, et notamment Hezbollah, mais aussi les liens avec le Hamas se sont renforcés. La dernière année, il y a toujours les déclarations qui sont tellement hostiles quand il s'agit d'Israël. Et le comportement d'Iran au Moyen-Orient, on peut encore une fois lire l'article de Saïd Hariri dans le New York Times il y a quelques jours, le comportement, la politique iranienne.
Donc Obama s'est trompé en faisant confiance aux Iraniens.
Moi, encore une fois, il y a l'espoir que les choses vont améliorer, que l'Iran peut-être deviendra un pays plus pragmatique. Mais en ce qui nous concerne, et nous, encore une fois, nous examinons la politique iranienne par rapport à Israël, rien n'a changé.
Même dans les premiers mois de l'application de l'accord sur le nucléaire, vous n'êtes pas convaincu du tout par les quelques...
Nous ne sommes pas convaincus du tout parce qu'ils sont encore engagés par l'essai de missiles balistiques. Ça, c'est contre les traités, les accords internationaux. Et lorsque, sur l'un de ces missiles, il y a une écriture en hébreu, pour que tout le monde comprenne qu'Israël va et doit disparaître du monde, alors ça, c'est un problème. Oui, parce qu'il s'agit de nous.
Alors, au bout du compte, en Syrie, quelle serait pour vous la solution la meilleure pour Israël?
Encore une fois, nous n'exprimons pas, et ce n'est pas par hasard, nous ne vont pas nous trouver au cœur, au sein de ce qui se passe en Syrie. Pour nous, c'est très important de préserver ces trois lignes rouges. Et il faut aussi ajouter ici qu'Israël a soigné 1700 Syriens qui étaient traités dans les hôpitaux israéliens sur une base humanitaire. Et ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est évident, parce qu'avec la Syrie...
Éventuellement, parmi eux, des rebelles proches de Al-Nusra, proches d'Al-Qaïda?
Et Israël n'a pas demandé qui ils sont. Ils sont venus vers le frontière, ils étaient blessés, ils avaient besoin d'un traitement et médical. Et ils l'ont reçu. Après, ils sont rentrés en Syrie. Ils n'ont pas resté en Israël.
Israël ne se prononce pas, mais on a l'impression que finalement, donc ils s'entretuent à vos frontières et finalement, c'est ça qui arrange l'État d'Israël ?
Les
Daesh et les gens du Hezbollah, les Iraniens s'entretuent en Syrie.
Ils se tuent en Syrie, mais encore une fois, ça c'est une guerre qui n'a rien à voir avec Israël. Et pour nous, ce qui est très important, encore une fois, c'est regarder nos intérêts.
Alors, est-ce que, d'une certaine façon, il n'est pas plus facile pour la diplomatie israélienne d'avoir Bachar el-Assad à la tête de la Syrie, puisque on sait que personne ne pourra négocier avec lui. Pendant ce temps-là,
encore
le temps passe.
Vous
souhaitez son départ, son maintien dans l'avenir ?
C'est pas encore une fois par hasard qu'Israël ne s'exprime pas par rapport à qui doit être en Syrie. Ça, c'est un enjeu de la Syrie et de la communauté internationale. Pour nous, il y a la sécurité que nous suivons. Pour nous, la sécurité est ce qui importe. Et là, il y a ces trois lignes rouges que nous vraiment...
Mais on disait tout à l'heure, madame, d'une certaine façon, avec ce qui se passe dans la région, on serait presque tenté de se dire où est passé Israël. On n'entend plus Israël. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de déclaration, alors que les pays voisins s'embrasent. C'est possible de
rester silencieux ? Par rapport à la Syrie ?
Oui, notamment par rapport à la Syrie.
C'est exactement ça. Israël ne veut pas s'exprimer par rapport à la Syrie. Nous avons assez de problèmes, sauf de la Syrie.
Alors du coup, en Syrie, quel est votre pronostic ? Ça peut durer quoi, 5 ans, 10 ans encore à ce rythme ? On voit ce qui se passe à Alep. Finalement, tout le monde se neutralise. Comment ça peut se passer ? Quel est votre diagnostic ?
C'est une question très difficile parce qu'on ne peut pas maintenant savoir et l'avenir. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec l'accord entre la Russie et les États-Unis il y a quelques jours. Et c'était complètement... Et ce n'était pas respecté.
La trêve qui a duré à peine une semaine.
Oui, même moins pas. Que ça. Oui. Alors,
Sophie Malibaud.
Pour parler de la diplomatie israélienne, on a l'impression que, justement, Israël se tourne maintenant de façon beaucoup plus intense vers le continent africain. Il y a eu une tournée de Benjamin Netanyahou cet été, et en marge des Nations Unies, il y a eu une rencontre avec des leaders africains de pays musulmans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quel est l'objectif ?
Oui, merci pour la question, parce que c'est un enjeu très important et par rapport à la diplomatie israélienne de développer et renforcer les liens avec les pays d'Afrique. D'abord, ce n'est pas quelque chose de nouvel, parce que Israël a maintenu de très bonnes relations avec l'Afrique depuis l'indépendance des pays africains. Et moi, ma première mission était au Swaziland pendant 4 ans. Et Israël était toujours engagé par rapport à partager toujours de sa savoir-faire par rapport pour beaucoup de domaines et importants par rapport à l'agriculture, par rapport à la médecine, par rapport à l'enforcement des communautés. Et les derniers, ce que nous partageons aussi, c'est la lutte contre le terrorisme. Alors pour Israël, d'abord, les pays africains, ils prennent part de ce qui se passe à la communauté internationale. Et pour nous, les pays africains sont importants. Israël, la Guinée ont résumé repris les relations diplomatiques il y a 2 mois. Et hier, j'ai entendu qu'il y a une mission, une délégation qui est partie d'Israël à Conakry exactement pour établir un hôpital et sur terrain et de soutenir et la population là-bas. Israël était un des premiers pays qui a été très engagé par rapport à Zika pour affronter ce défi.
Mais pour certains leaders musulmans africains, c'est assez compliqué. Des leaders qui soutiennent la cause palestinienne, c'est assez compliqué, ce rétablissement. On voit par exemple que le Sénégal, Israël a une ambassade au Sénégal, mais le Sénégal n'a pas d'ambassade en Israël.
Oui, mais maintenant, ils ont leur ambassadeur en Égypte. Il était nommé pour représenter le Sénégal aussi en Israël. C'était un développement de dernière semaine. Alors, il y a un très bon développement par rapport à la position africaine et vers Israël. Et j'étais très content d'entendre le président de Togo, c'était oui, qui a dit, et dans le cadre de ses réunions à l'ONU, qu'on ne doit pas hésiter lorsqu'il s'agit des relations avec Israël, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts communs. Et il faut promouvoir l'agenda et commune avec Israël. Alors il y a un changement là-bas à cause, encore une fois, de la réalité de ce qui se passe.
Je voulais peut-être juste revenir sur Obama et son bilan, parce qu'il est proche de quitter la Maison-Blanche. Comment expliquez-vous qu'en fait il ait échoué finalement à relancer une forme de processus de paix entre Israël et la Palestine ? À quoi ça tient selon vous ?
À mon avis, la réponse est très claire. C'est parce que Mahmoud Abbas ne veut pas. Et il y avait beaucoup d'occasions de relancer ou d'avancer au moins un rendez-vous entre les deux. Netanyahou l'appelait plusieurs fois. Alors, s'il était vraiment sérieux, s'il était intéressé à parvenir à la paix, il pouvait le faire. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
Alors, nous sommes en France actuellement. Que diriez-vous de la diplomatie française ? Est-ce que vous la qualifieriez d'équilibrée ? Est-ce que vos interlocuteurs à Paris comprennent ce point de vue ? On sait qu'en coulisses, ils regrettent un certain nombre d'actions. Je ne vais pas parler de la colonisation. Qu'est-ce que vous pensez de la... Quels sont vos rapports avec la diplomatie française ?
D'abord, nous partageons vraiment les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. La France est très intéressée d'avoir la paix au Moyen-Orient, entre Israël et les Palestiniens et ailleurs, et nous aussi. Mais ici, il y a une différence, parce que la France poursuit ses intérêts, qui n'est pas toujours le même intérêt qu'Israël a.
En tant qu'Israël,
par exemple, en tant qu'Israël appelle Mahmoud Abbas de venir et discuter directement, et la France a avancé l'initiative française, selon laquelle c'est la communauté internationale,
qui ce sont les membres le pays ouais.
qui doivent avancer ou faciliter ces rendez-vous. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant parce que pour nous, encore une fois, nous sommes d'accord, même de faire des concessions parfois difficiles. Mais pour ça, il faut avoir un interlocuteur. En anglais, on dit « it takes two to tango ». Pour le moment, il n'y a qu'un danseur.
Justement, est-ce que du côté israélien, il n'y a pas aussi des difficultés pour Benjamin Netanyahou, qui a un gouvernement qui tire de plus en plus à droite? On a vu là, au ministère de la Défense maintenant, M. Avigdor Lieberman. Est-ce que Benjamin Netanyahou a une marge de manœuvre pour lui aussi faire des avancées, faire des gestes envers son interlocuteur palestinien? Est-ce qu'on lui laisserait faire?
Et alors d'abord, M. Lieberman, dont j'étais le chef du cabinet avant d'arriver ici, et je pense qu'il a vraiment la vision d'avancer une initiative et compréhensive par rapport aussi aux qui doivent inclure aussi des pays modérés et au Moyen-Orient, notamment l'Égypte et la Jordanie et les pays du Golfe. Oui, vous avez raison, parce que la société israélienne est devenue plus la droite, comme la population est palestinienne. Et aujourd'hui, le gouvernement Netanyahou n'est pas le plus, le plus à droite et en comparaison aux autres partis qui prennent part dans ce gouvernement. Mais encore une fois, malgré le changement, et c'est lui qui appelle Mahmoud Abbas de venir. Et ce n'est pas facile.
Est-ce que ça vous inquiète, cette multiplication des attaques, style attaque au couteau, des attaques spontanées qui ne font pas l'objet, en fait, d'une organisation, qui viennent de la part de gens qui sont absolument désespérés et qui en ressortent à la violence?
Oui, ça nous inquiète énormément. Moi, j'ai deux filles qui habitent en Israël et je suis très inquiétée quand ils sortent dans les rues. Bien sûr que ça nous inquiète.
Et quelle est la solution par rapport à ce type de...
D'abord, arrêter l'incitation à la haine. D'abord, ne pas encourager les familles des terroristes qui sont vraiment engagés, qui commettent des attentats terroristes. D'abord, et sortir avec des déclarations positives. Et encore une fois... et recevoir l'appel de Netanyahou de venir et discuter.
Mais qu'est-ce qu'il y a de positif venant du gouvernement israélien à l'égard de ces Palestiniens qui sont au bord du désespoir de ne même plus avoir un processus politique pour la paix?
Alors, vous savez qu'entre Israël et l'autorité palestinienne, il y a aussi des relations dont on ne parle pas beaucoup, et c'est très dommage. Vous savez qu'il y a 100 000 Palestiniens qui travaillent en Israël. Il y a une coopération, une très bonne coopération entre les forces de la sécurité israélienne et leurs homologues palestiniens. Il y a un accord, des accords dans le domaine économique qui étaient signés et qui sont respectés entre Israël et les Palestiniens. Ce n'est pas que et noir et blanc entre Israël et les Palestiniens. Alors il y a encore cette volonté, je pense, à côté de deux populations, vraiment de parvenir à la paix. Mais pour ça, encore une fois, il faut arrêter l'incitation à la haine contre Israël, il faut arrêter l'éducation contre Israël dans les écoles palestiniens, ce qui est le cas. Ce n'est pas le cas dans des écoles israéliennes, parce que ce n'est pas vraiment nos valeurs. Mais on peut travailler sur ça. Parce que sinon, l'avenir sera vraiment très, très problématique et triste pour nous tous.
Madame, nous sommes journalistes, nous avons des lecteurs, téléspectateurs, auditeurs qui ont vu le monde changer en 25 ans. Chute de l'Union soviétique, effondrement du mur de Berlin, fin de l'apartheid par exemple. Pourquoi est-ce qu'il y a ce sorte de glacis sur cette région du monde? Pourquoi est-ce que rien n'a avancé? Et même d'une certaine façon, par rapport à 93, accord d'Oslo, on a plutôt le sentiment que les choses ont régressé, notamment depuis l'assassinat de Rabin.
Alors d'abord, j'espère que vous ne pensez pas que la situation au Moyen-Orient et tous les conflits qui aujourd'hui existent entre les sunnis et chiites au Moyen-Orient, soit au Yémen, au Liban, à la Libye, en Irak ou ailleurs, et sont liés au conflit israélo-palestinien. Je pense que déjà nous sommes passés cette pensée. Mais pourquoi ? C'est une banque entre nous. Et je ne veux pas parler par rapport aux relations entre Israël et les Palestiniens.
Mais est-ce que ça avancera? Je vous posais une autre question. Il y a donc, c'était sur le plateau de TV5 Monde, il y a 23 ans, avec RFI, les deux ambassadeurs, je crois que c'était Leila Shahid et Yehuda Lankri pour Israël, étaient côte à côte et parlaient de cet avenir prometteur et réel. Aujourd'hui, nous ne pourrions même plus, un quart de siècle plus tard, faire ce dialogue sur un plateau de télévision ou de radio.
D'abord, nous avons eu cet espoir, bien sûr, parce que nous avons espéré que le processus d'Oslo va avancer et après, je ne sais pas, 25 ans, on aura la paix au Moyen-Orient. Ça, ce n'était pas le cas. Au contraire, le Moyen-Orient est devenu de plus en plus extrême et violent. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, les deux côtés doivent s'asseoir autour de la table de négociation et parler. Quand il y a des problèmes, il faut en parler.
Mais
Mais c'est pas un Palestinien qui a abattu.
Si votre interlocuteur a besoin d'un arbitre, qu'il y a un tel déficit de confiance que votre interlocuteur a besoin d'un arbitre, pourquoi lui refuser cet arbitre?
Il y a deux ans, John Kerry qui a essayé arbitrer entre les Palestiniens. Il y a deux ans, c'était en 2014, pas si longtemps. Et ça n'a pas réussi. Parce que encore une fois, pour Mahmoud Abbas, et ça, c'est, il faut aussi analyser, nous n'avons pas ici assez de temps, mais il y a beaucoup de contraintes, Mahmoud Abbas, qui n'ont rien à voir avec Israël. Vous voyez ce qui se passe entre les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Et ce qui se passe par rapport aux élections qui étaient maintenant reportées à cause des Palestiniens qui ont peur que peut-être Hamas va se renforcer en Cisjordanie. Il y a beaucoup de problèmes qu'il affronte, qui n'ont rien à voir avec Israël. Alors ça, bien sûr, il faut affronter, il faut discuter, il faut voir comment on peut résoudre les problèmes. Au lieu de penser qu'à travers la communauté internationale, Israël sera pressé et saura faire des concessions. Ça, ce n'était jamais le cas quand il s'agissait
Philippe
d'Israël.
Pécard.
Vous pensez que la possibilité d'un dialogue, d'une relance donc, de ce processus sera plus grande avec un nouveau président des États-Unis d'ici à quelques mois, ou c'est quelque chose qui est totalement indépendant finalement de ce paramètre-là?
À mon avis, le problème est avec notre interlocuteur et notamment avec Mahmoud Abbas, ça c'est le problème. C'est à lui de changer sa position et sa politique et de s'engager par rapport à un dialogue avec Israël. C'est plutôt à lui.
Vous attendez rien du tout du prochain président ou la présidente américaine? Vous n'attendez rien? Ouais.
Bien sûr que nous attendons. Nous attendons de toute la communauté internationale d'essayer de convaincre Mahmoud Abbas de changer sa politique. Les États-Unis jouent un rôle très important sur ce sujet.
Aliza Bin Noun, est-ce qu'avant le nouveau président, est-ce qu'il y a une fenêtre de tir possible pour que la diplomatie américaine fasse encore bouger les lignes après l'élection, je parle du mois de décembre, autour du mois de décembre?
On entend parler
d'Obama. Clinton avait fait comme ça lui-même en 2000.
C'est trop tard?
Pour cette administration,
ouais.
Ça, c'est à eux de décider. Ah. Mais encore une fois, la question, ce n'est pas qui va avancer et quel sujet. C'est une vraie décision. Où se trouvent les Palestiniens en cette histoire? Est-ce qu'ils sont prêts de changer leur politique ou pas? Je pense que ça, c'est vraiment la question clé.
Aliza Bin Noun, merci d'être venu sur le plateau d'International, émission TV5 Monde RFI réalisée en collaboration avec le quotidien Le Monde. Merci d'avoir été avec
nous. Merci beaucoup.
Nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre thème d'actualité internationale, bien sûr.
RFI. la radio du monde.
Matambale fate farata, matambale fate farata. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh no, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. The matamali wolotila ni khayna no batuloma. The matidon kisamubi. The matidon kisamubi. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Oh well, I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy.
À l'occasion de la